VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 11h en temps universel et à Bamako, bonjour à tous. Un douanier et deux civils ont été tués aujourd'hui à Ombori, dans le nord du Mali, lors d'une attaque attribuée à de présumés djihadistes. Les terroristes sont venus du nord avec des véhicules, ils avaient des armes de guerre. Ils ont commencé à tirer en l'air avant d'attaquer la douane, a précisé une source militaire à l'AFP. L'attaque a créé un vif émoi au sein des habitants de Ombori qui se sont rassemblés ce matin, non loin de la douane locale, réclamant davantage de sécurité. Au Niger, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt mardi dans lequel elle estime que la mise en liberté provisoire du candidat à l'élection présidentielle, Mahamadou, leader du parti Modène, ne relève pas de sa compétence. Réaction de Bakary Seydou, il est le chef du groupe parlementaire du Modène, le parti de Mahamadou.
Vous savez, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont des arrêts qui ne font l'objet d'aucun recours. Donc nous n'avons aucun recours à faire. Maintenant, comme nous le disons, pour nous, dans tous les cas, les jeux sont déjà jetés. Et nous avons des hommes, des femmes qui sont déterminés à battre campagne pour que le président Hama puisse être sorti de la prison grâce aux voix des Nigériens. En tout cas, le 21 février, le président Hama va sortir vainqueur des urnes.
Est-ce que vous envisagez une alternative ?
Non. Pour nous, la Cour constitutionnelle ayant déjà fait son arrêt, la seule alternative qui nous reste, nous, maintenant, c'est le résultat du vote.
Est-ce que vous avez pu lui parler ?
Oui, aujourd'hui même, j'étais parti le voir. Il est très confiant. Il a un moral fort. Il se considère comme un prisonnier politique. Et la seule alternative qui existe pour lui, c'est le faire sortir grâce aux urnes, en tout cas le 21 février 2016.
Bakary Seydou de l'opposition nigérienne, joint par Anastasie Toudièche. Des représentants de 9 pays du Sahel sont réunis à Lomé pour valider un rapport de l'ONU sur la circulation illégale de plus de 8 millions d'armes légères. Présente à cette réunion, Olato Kumbo Ige, directrice du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Elle nous en situe les enjeux.
Nous, au niveau de l'ONREC, nous avons cette responsabilité d'aider les États membres à avoir plus de capacités pour faire le marquage, le stockage et le traçage des armes. Dès que les pays ont plus de capacités de stocker leurs propres armes, maintenant on peut tracer les autres types d'armes qui circulent dans la région. Il y a des autres agences qui travaillent sur le volet économique pour essayer de convaincre les gens de donner leurs armes pour avoir les avantages, parce que ici on dit que c'est un problème économique aussi. Donc maintenant, il faut retirer les armes pour leur donner une opportunité pour avoir le travail ou commencer un type de business ou entreprise pour avoir les moyens économiques.
La directrice du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'élection des gouverneurs de 21 provinces nouvellement créées est fixée au 26 mars. Selon un calendrier publié par la CENI, la commission électorale, ils doivent être élus au suffrage par des députés provinciaux dont le mandat a expiré depuis longtemps. Formulant ainsi la plainte des partis d'opposition, écoutons ce qu'en dit le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba.
La CENI a obligation, conformément à l'article 211 de la Constitution, d'organiser les élections conformément au texte. Je vous dis qu'il y a une loi. Le fait que les députés provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs élus en 2007 soient là, ça ce n'est pas un problème de la CENI. Je vous dis qu'il y a aussi un article de la Constitution pour chaque cas qui dit que la législature se termine par fin de mandat, décès de quelqu'un, ceci, jusque au remplacement de l'autre. Ça, ces débats-là, on doit les passer ailleurs. Nous, nous restons tant qu'ils sont là. Il y a une loi de programmation d'installation de nouvelles provinces qui les recommande, d'une part. D'autre part, il y a la Cour constitutionnelle qui est censée juger de la constitutionnalité de la chose, qui a pris un arrêt demandant à la CENI d'organiser ces élections-là.
Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante en RDC. L'administration Obama a engagé d'intenses efforts diplomatiques en défense de la limitation des mandats dans la région des Grands Lacs, a fait savoir hier la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines. Précision, Michel Joseph.
Les États-Unis ne pensent pas que les gouvernements doivent changer la Constitution au bénéfice d'un dirigeant pour qu'il reste au pouvoir au-delà du délai prévu. a expliqué Mme Linda Thomas-Greenfield lors d'une téléconférence avec des journalistes africains. Dans le cas du Burundi, nous avons vu les résultats de la décision du président de rester plus longtemps que ce qui est prévu par la Constitution. Nous tentons diligemment de faire comprendre au président Kabila qu'il doit respecter la Constitution. Nous avons fait part de notre grande déception concernant la décision au Rwanda de prolonger le mandat du président. Selon Mme Thomas-Greenfield, Washington œuvre avec des partenaires dans la région et au sein de la communauté internationale pour amener ses chefs d'État à réaliser que les peuples ont besoin de transition pour qu'une démocratie fonctionne. Les vrais leaders mènent leur pays à des transitions, a déclaré la secrétaire d'État adjointe américaine Linda Thomas-Greenfield.
Le président tchadien Idriss Déby Itno va briguer un cinquième mandat lors de la présidentielle du 10 avril. Dans son discours d'investiture mardi, il a promis de rétablir la limitation du nombre de mandats présidentiels, un verrou qu'il avait lui-même fait sauter par référendum en 2005. Maître Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir N'Djamena, explique ce changement de cap.
Cela procède d'une logique très simple. En 2005, il fallait absolument sécuriser le pays parce qu'il y avait une menace de certaines personnes mues par leurs intérêts personnels d'attenter encore à la sécurité de l'État avec l'aide de certains pays voisins. Donc, ce plan était minutieusement préparé et donc, il a estimé qu'il fallait absolument défendre l'unité du pays et la sécurité de nos concitoyens. Il a fait sauter ce verrou et d'ailleurs, vous savez très bien qu'il n'a pas été démenti. En 2008, cette horde de mercenaires avait déferlé sur N'Djamena. Heureusement, ils étaient repoussés. Et donc, maintenant, depuis 2008 jusqu'à maintenant, eh bien, on jouit d'une certaine tranquillité, sinon d'une paix certaine. Donc, il a estimé que les conditions étaient réunies parce qu'au jour d'aujourd'hui, les Tchadiens sont bien conscients que quiconque voudrait prendre le pouvoir par la force les trouverait sur leur chemin. Donc, il estime que le moment est propice pour pouvoir maintenant sérénement limiter le mandat pour permettre l'alternance.
Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du salut, joint à N'Djamena. L'ancien dictateur tchadien Hissène Habré risque la perpétuité. Le procureur du tribunal spécial africain à Dakar le poursuit pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Un procès inédit, le premier au monde, car jamais un ancien chef d'État n'avait été confronté à une juridiction d'un autre pays pour violation présumée de droits humains. Eric Manirakiza.
Le réquisitoire a duré près de 7 heures. Tour à tour, 4 membres du parquet dont le procureur spécial Mbake Fall a réclamé une condamnation à la hauteur des crimes. L'accusation reproche à M. Habré d'être le véritable chef de service de l'appareil de répression pendant 18 ans de règne au Tchad. Une commission d'enquête a identifié 40 000 tués entre 1982 et 1990. Hissène Habré est l'unique accusé. Depuis l'ouverture du procès le 20 juillet 2015, il est resté silencieux et impassible, un comportement que l'accusation a qualifié de lâcheté envers les victimes, plus qu'une stratégie de défense. Celui qui s'est fait passer pour un dieu va réfléchir et savoir que ce qu'il a fait est mauvais, a déclaré Souleymane Gungeng, président fondateur de l'Association des victimes de crimes du régime de Hissène Habré. En détention depuis le 30 juin 2013, il pourra purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine, mais aussi interjeter appel en cas de condamnation.
La Corée du Nord a ordonné aujourd'hui à tous les Sud-Coréens de quitter immédiatement la zone industrielle intercoréenne de Kaesong et annoncé la saisie de tous les avoirs sud-coréens qui s'y trouvent. Cette annonce de la Commission pour la réunification pacifique de la Corée qui s'occupe des questions intercoréennes fait suite à la décision unilatérale de Séoul de fermer la zone afin de sanctionner le quatrième essai nucléaire nord-coréen, le tir dimanche d'une fusée à longue portée par Pyongyang. Dans un communiqué publié par l'agence officielle nord-coréenne, la commission annonce qu'elle ferme Kaesong, déclarée désormais zone militaire. La Russie s'est dite prête aujourd'hui à discuter des modalités d'une trêve dans les bombardements en Syrie qu'exige l'opposition syrienne et les Occidentaux. Ces derniers imputent à la poursuite des frappes russes l'échec des négociations de paix à Genève. Et puis, les Iraniens ont célébré ce jeudi le 37e anniversaire de la révolution islamique par d'immenses défilés. Ces rassemblements monstres interviennent un mois après la levée des sanctions internationales contre l'Iran et à 2 semaines d'élections législatives cruciales pour le président Hassan Rouhani. Celui-ci espère obtenir une majorité de députés favorables à sa politique d'ouverture et des réformes au sein du Parlement actuellement dominé par les conservateurs. Jean-Roger Billon, point final à ce journal. Le prochain, ce sera avec Henri Francisque dans 50 minutes. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.